Bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La Tunisie devrait réclamer 30 millions d'euros à la France dans les jours qui viennent, au titre de réparation après les crimes commis par des militaires français à la fin des années 50. Des représentants de la justice transitionnelle en Tunisie disent avoir des preuves. Nous irons sur place.
Et nous nous pencherons ensuite sur le premier rapport du Haut Conseil pour le climat. Il appelle le gouvernement français à revoir son action pour concrétiser ses ambitions.
Près de 25 maires de droite et du centre se retrouvent ce matin à Paris. Souhaitant rejoindre la majorité LREM, ils vont créer une association. Elle pourrait s'appeler la République des maires. Information France Culture détaillée dans ce journal.
Et puis nous irons ensuite au Japon où est attendu Emmanuel Macron. Sa visite avant le G20 durera 2 jours. Zoom dans 10 minutes sur les pères français séparés de force de leurs enfants par les mères japonaises.
Et après cette édition, Frédéric Saïs nous rejoindra pour son billet politique. Il se demandera ce matin si l'on va vers une rupture entre Paris et Berlin. Faire éclater la vérité en nommant les responsables des crimes d'État commis en Tunisie. Voici l'objectif de la justice transitionnelle tunisienne et aujourd'hui elle accuse la France. L'IVD, l'instance Vérité et Dignité, est chargée de faire la lumière sur les crimes de masse commis en grande partie sous les airs Bourguiba et Ben Ali. Mais elle révèle que Paris a pilonné certaines régions après avoir reconnu l'indépendance de la Tunisie. L'IVD exige excuses et réparations de la part de l'État français. Voilà ce qu'a révélé la présidente de l'instance à Maureen Mercier pour France Culture.
Des piles de dossiers sur son bureau. Siham Ben Sedrine, la présidente de l'instance, ne mâche pas ses mots. La plupart des cas qu'elle traite concernent les crimes commis par les régimes de Bourguiba et de Ben Ali, mais certains impliquent l'État français aussi.
Les premières violations commises par l'État français, c'est en juillet 1956. La Tunisie était indépendante et ils ont pilonné tout le sud. Ils ont tué des centaines de Tunisiens. Et puis, le grand massacre, c'était à Bizerte. Ils ont tué un peu moins de 5000 personnes. Quelques 300 militaires et tout le reste, c'était des civils. Il est temps que la France reconnaisse ses crimes et répare. L'IVD a documenté toutes ces violations. On va demander aussi des excuses à la France.
Des excuses et des réparations financières, selon les barèmes fixés par la justice transitionnelle tunisienne elle-même. Si l'on prend uniquement le cas de Bizerte...
Écoutez, multipliez vous-même un homicide sur le barème de l'IVD, c'est 200 000 dinars. Multiplié par 5 000, vous voyez ce que ça donne.
L'équivalent aujourd'hui de plus de 30 millions d'euros.
Et ça, c'est que Bizerte. C'est pas Jbel Agri, Jbel Bouhlel, Bargou, Sakrit Sidios, c'est pas tout ça. Mais dans le mémorandum, il y aura tous les détails, un nombre précis de morts avec des noms, avec tout ce qu'il faut pour justifier les demandes de la Tunisie.
Le mémorandum devrait être envoyé début juillet. Le gouvernement tunisien n'a pour l'heure pas pris position sur cette démarche de l'IVD. Nous avons tenté de joindre l'ambassadeur de France en Tunisie pour obtenir sa réaction, pour l'heure, sans succès.
C'était une information de Maureen Mercier depuis Tunis pour France Culture. Le gouvernement français, lui, est préoccupé en ce moment par la réponse à donner au dérèglement climatique. Son projet de loi énergie et climat est arrivé hier en débat à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mais les moyens manquent selon les groupes de députés. Même l'allié de la majorité, le MoDem, s'est dit assez frustré. Les associations et ONG de défense de l'environnement, elles, critiquent en particulier la trajectoire révisée sur le nucléaire. La baisse mettra 10 ans de plus que prévu. Or, il y a urgence. La France, d'ailleurs, est déjà en retard sur ses objectifs, notamment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voici la conclusion sévère du premier rapport du Haut Conseil pour le climat remis hier soir. L'organisme a été créé il y a seulement quelques mois, en novembre dernier, et il est donc sévère envers la politique du gouvernement, Véronique Rebeyrotte.
Doit mieux faire et vite. Si la France entend respecter ses engagements de neutralité carbone d'ici 2050, elle va devoir mettre les bouchées doubles, voire triples. Corinne Le Quéré, la présidente du Haut Conseil pour le climat.
Les objectifs de neutralité carbone en 2050 que la France vise dans la loi énergie-climat sont cohérents avec la science, avec l'accord de Paris, mais les budgets carbone que la France s'est fixés pour des périodes respectives de 5 ans, malheureusement en ce moment, ils ne sont pas atteints. On a fait une évaluation du premier budget sur la période 2015-2018 et on voit que la baisse des émissions de environ 1% par année est deux fois moins rapide que ce qu'on devrait déjà avoir maintenant. an et que cette baisse, elle doit tripler d'ici 2025 pour rattraper la trajectoire. Donc, on n'y est pas du tout au niveau de la force de l'action. Ça va pas assez vite.
Le rapport précise que les décalages entre objectifs et réalité proviennent en particulier des émissions liées au transport. Elles n'ont pas diminué depuis 10 ans. Et des émissions de CO2 provenant des bâtiments, elles ont baissé 3 fois moins vite que ce qui avait été anticipé. Quant à la baisse des émissions de gaz à effet de serre françaises en 2018, elle s'explique principalement, selon le Haut Conseil pour le Climat, par les conditions météo avec un hiver doux et ne résulte que marginalement des actions du gouvernement en matière de climat. Pas de quoi fanfaronner du côté du ministère de l'écologie.
Et pourtant, hier, le ministre de l'écologie, François de Rugy, vantait son projet de loi énergie et climat, projet de loi à venir, qui, dit-il, redonne le cap d'une ambition forte. Alors, Véronique Robérotte évoquait à l'instant un hiver doux en France. Cela a facilité la ponte dans les colonies d'abeilles, trop nombreuses par rapport aux fleurs à butiner dans le pays. Les apiculteurs sont donc catégoriques en ce début d'été, excepté en Bretagne, le miel manque. Les récoltes sont très mauvaises. La faute aux conditions météo, dit Henri Clément. Il est porte-parole et secrétaire général de l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française.
On a eu un printemps qui a été apocalyptique, c'est-à-dire que au départ, il y avait pas mal de sécheresse. Et puis, par la suite, il y a eu beaucoup de vent du nord, des gelées tardives, des périodes de froid, ce qui fait que les abeilles n'ont pas pu profiter des fleurs. Certaines d'ailleurs avaient gelé, comme c'est l'acacia dans beaucoup de régions, et donc elles n'ont pas pu récolter du nectar et donc du miel. Et dans certaines régions, les apiculteurs non seulement n'ont pas récolté de miel, mais ont été obligés de nourrir les colonies d'abeilles, ce qui se fait généralement pas du tout, pour arriver à leur permettre de survivre. Ça, c'est catastrophique. À l'heure actuelle, il y a très peu de miel chez les apiculteurs, la saison n'est pas terminée, mais nous sommes quand même particulièrement inquiets, surtout s'il fait quelques jours à 37-38 degrés, ça risque de brûler les fleurs et donc qu'on n'ait pas non plus de miel. Donc dans ce cas-là, la situation serait vraiment dramatique pour les apiculteurs et certaines exploitations, faute de miel, devraient mettre la clé sous la porte.
Les apiculteurs français inquiets de leur récolte en pleine canicule, inquiets aussi face à la concurrence internationale. Sur le sujet, retrouvez un reportage de la rédaction de France Culture daté de la mi-juin sur notre site franceculture.fr. Ils veulent représenter les territoires au sein de la majorité, se sentant davantage écoutés que dans leur parti d'origine. 72 maires de droite, du centre et quelques-uns de gauche avaient signé il y a 15 jours une tribune en ce sens. Ils se retrouveront ce matin à Paris pour les bases de leur association qui devrait s'appeler la République des maires. C'est une information France Culture de Rosalie Lafarge qui a rencontré le premier de ses élus.
Aux manettes de la République des maires, Christophe Béchu, maire d'Angers dans le Maine-et-Loire, cet ancien de Les Républicains en a tout simplement assez de l'opposition systématique.
Je trouve qu'effectivement notre vie politique souffre de ce côté très binaire. Il y a ceux qui ont gagné les élections et il y a ceux qui les ont perdues. Et ceux qui les ont perdues passent leur temps à taper sur ceux qui les ont gagnés, y compris quand ceux qui les ont gagnés mettent en œuvre ce que ceux qui les ont perdues auraient aimé faire eux-mêmes s'ils étaient au pouvoir.
Lui a choisi de prendre le parti des solutions, dit-il, pour mettre en avant des initiatives locales qui fonctionnent, créer une sorte de boîte à bonnes idées et donner une forme concrète à ce qu'il a commencé à dessiner dans sa tribune.
Cette forme, c'est une association. On ne veut pas d'un parti politique.
Christophe Béchu l'assure, il n'a pas trouvé au niveau national un lieu d'expression ouvert. Les partis politiques trop occupés à prendre ou garder le pouvoir, les associations d'élus trop politisées aujourd'hui. Alors il crée cette association avec un seul but affiché, rendre visibles les bonnes pratiques en dehors des clivages partisans.
Quand on est maire et qu'on reçoit une idée, on ne se demande pas si cette idée elle est de droite ou de gauche. On se demande si elle est bonne ou mauvaise. On se demande si elle est adaptée ou si elle est farfelue. On se demande si elle est faisable d'un point de vue financier ou si elle est beaucoup trop chère.
Et c'est en fait tout ce qui devrait guider l'action locale, selon Christophe Béchu, déçu qu'on réduise parfois son initiative à un soutien de circonstance à Emmanuel Macron. C'est loin de n'être que ça, souligne l'élu déjà prêt à monter au front contre le gouvernement si certains projets vont à l'encontre de ses idées, sont pensés de façon trop parisienne ou technocratique et risquent de mettre en difficulté les territoires.
Leurs casernes seront habillées de banderoles, leurs véhicules également pendant deux mois. Une façon de protester tout en assurant le service minimum. Les pompiers sont appelés à faire grève à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 août par 7 syndicats sur 9. Ils réclament davantage de moyens face aux sollicitations croissantes. Les épreuves du baccalauréat viennent de se terminer. Les inscriptions ont repris pour l'orientation en études supérieures. Et voilà une annonce. La prestigieuse école de Sciences Po Paris retirera à la rentrée 2021 son concours d'entrée à l'écrit. L'idée à Kim Kasmi est de diversifier les profils.
L'école y pensait déjà depuis 2 ans. Terminé donc le concours d'entrée en première année. Désormais, l'école s'appuiera sur 4 critères. Les notes au contrôle continu, durant la scolarité au lycée, les résultats au bac et la motivation des élèves. Les candidats devront également passer un grand oral qui comptera pour 1/4 de la note. Des mesures qui vaudront aussi pour ceux qui viennent de l'étranger. Des procédés inspirés en partie de la filière égalité des chances créée par feu Richard Descoings qui voulait intégrer des jeunes issus des établissements de zones d'éducation prioritaire. Ce qui lui avait valu, à l'époque, au début des années 2000, des critiques très virulentes. La discrimination positive, une politique qu'assume le directeur de Sciences Po, Frédéric Mion, qui espère ainsi, avec cette réforme, doubler le nombre de boursiers pour passer à 30%. Il souhaite également élargir le nombre de lycées partenaires de la convention Sciences Po au-delà des zones d'éducation prioritaire pour l'élargir également aux établissements périphériques et de zones rurales. Avec un objectif, lutter contre le phénomène d'autocensure chez ces jeunes. Enfin, avec la réforme, les inscriptions seront également directement accessibles sur la plateforme Parcoursup.
C'était les précisions d'Hakim Kasmi.
8h11 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Emmanuel Macron arrive ce matin au Japon pour une visite de 2 jours.
Oui, sa première visite dans le pays et elle sera marquée par des sujets sensibles. L'alliance Renault-Nissan d'une part, ternie par les inculpations qui visent Carlos Ghosn. Et puis d'autre part, la question de la parentalité pour les Français qui ont un enfant avec une Japonaise. En cas de divorce, ces mères enlèvent leur enfant en rentrant au Japon et refusent tout droit de visite. La justice japonaise va dans leur sens. Notre correspondante Karine Nishimura a rencontré l'un de ses pères privé de son enfant. Voici son reportage.
Un jour de 2015, Stéphane rentre chez lui près de Tokyo et la maison est vide. Plus de femmes, plus d'enfants.
Je ne vous dis pas la claque que j'ai prise quand je suis revenu du boulot et je ne savais plus ni où ni comment était mon enfant. De devoir apprendre à oublier son enfant, à ne plus avoir une photo de lui sur son portable. Il y a eu des pères qui sont suicidés. Oui, je comprends. Moi, j'y ai pensé pendant 6 mois.
Au Japon, en cas de divorce, un seul parent garde l'autorité parentale, la mère, dans 80% des cas. Les pères japonais, bien souvent, se résignent à ne plus voir leur enfant, mais pas les étrangers. La signature par le Japon de la Convention de la Haye sur les enlèvements internationaux d'enfants a permis de résoudre quelques cas, mais elle n'est pas valable pour tous, et les tribunaux donnent souvent raison aux parents partis avec l'enfant, ce que déplore le député Seishi Kushida.
On a abouti à un système où, puisque les tribunaux valident le fait accompli, il devient finalement bénéfique d'enlever son enfant.
Et même lorsque la justice ordonne le retour de l'enfant, si le parent japonais refuse, il n'est pas possible de faire exécuter par la force la décision du tribunal, une lacune que reconnaît le gouvernement.
Au total, ça ne concerne qu'un petit nombre de cas, mais quand la décision ne peut être exécutée, les parents se déchirent et la situation est bloquée.
Résultat, les plus combatifs ou désespérés en appellent à la pression politique internationale, mais une révolte interne des pères japonais apparaît aussi nécessaire pour faire bouger le système.
Karine Nishimura au Japon à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron. Le président français évoquera par ailleurs à cette occasion la crise iranienne. Hier, il s'est entretenu par téléphone avec le président iranien pour tenter, dit-il, d'éviter une escalade dangereuse face aux États-Unis. Hassan Rouhani a répondu à Emmanuel Macron qu'il ne cherchait la guerre avec aucun pays. Le président français discutera également avec Donald Trump en fin de semaine en marge du sommet du G20 à Osaka. Au Proche-Orient maintenant, les États-Unis ont eu bien du mal à convaincre hier en présentant le volet économique d'un plan pour la paix. L'objectif est de financer un plan de 50 milliards de dollars pour les Palestiniens, mais ces derniers continuent leur boycott. Les efforts du gendre du président américain Jared Kushner n'ont rien changé, Étienne Monin.
À la façon d'un Steve Jobs au centre de la scène avec un petit micro blanc au bord de la bouche, Jared Kushner explique avec beaucoup d'assurance les ressorts économiques de la région. Il s'adresse à des dirigeants, des chefs d'entreprise, des patrons d'institutions et aux Palestiniens qui ne sont pas venus.
Mon message pour le peuple palestinien, c'est que même si d'autres vous ont laissé tomber dans le passé, le président Trump et l'Amérique ne vous ont pas abandonné. Cette conférence est pour vous.
Le genre cadre du président soutient que cette initiative est l'occasion du siècle. L'économie, dit-il, est une condition pour la paix. Le plan politique viendra en temps voulu.
La croissance et la prospérité pour le peuple palestinien ne sont pas possibles sans une solution durable et juste pour le conflit, qui offre des garanties sur la sécurité d'Israël et qui respecte la dignité du peuple palestinien. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur le plan politique.
Mais à aucun moment dans son discours, Jared Kushner ne parle d'occupation. Le problème central des Palestiniens est occulté.
La Chambre des représentants outre-Atlantique, à majorité démocrate, a voté tard hier soir un plan d'urgence, 4,5 milliards de dollars pour l'aide humanitaire à la frontière avec le Mexique. Le pays en ce moment est sous le choc après la diffusion d'une photo prise à la frontière avec le Mexique, justement au bord du fleuve Rio Grande. Photo montrant un homme face contre terre et sa petite fille. Tous les deux se sont noyés. Ils avaient fui le Salvador et tenté d'entrer aux États-Unis. Photo sur laquelle est revenue Camille Magnard dans sa revue de presse internationale ce matin. Elle est à retrouver sur franceculture.fr. Les températures grimpent encore ce mercredi en France métropolitaine. 65 départements sont en vigilance orange canicule, soit 12 de plus qu'hier matin. Ils se trouvent surtout dans les régions du Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Limousin, l'Île-de-France et le Centre-Val-de-Loire. Météo France prévoit 40 degrés, voire plus, cet après-midi. Et reste toujours la Bretagne, sous le soleil aujourd'hui, où les températures oscilleront entre 23 et 29 degrés au maximum.